Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Léa Mormin-Chauva, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par David Federman. Troisième volet donc consacré à l'Amérique centrale, après avoir évoqué le recul démocratique qui semble toucher l'ensemble de la région, après avoir parlé des difficultés à consolider des économies encore très dépendantes des exportations et donc de la conjoncture mondiale, on va parler ce matin de la question de la violence. Les sociétés centra-américaines sont toutes traversées par une violence endémique, du Mexique au Panama, en passant par le Nicaragua ou le Salvador, des pandillas au Maras, les sociétés face à la violence.
J'avais à peine 11 ans quand je suis entré dans le gang. On vivait tous ensemble, comme des frères, et chaque jour ou presque, l'un d'entre nous se faisait assassiner. Alors on prenait toutes les armes qu'on pouvait trouver. Et on débarquait chez le gang rival pour trouver les coupables et venger la mort de nos camarades. J'ai tué des gens, j'étais tout le temps armé. Et je me disais, je vais m'en faire un. Tuer quelqu'un, c'est tout. Pour de l'argent.
Il a été victime d'une arme à feu. Impact dans le crâne.
8 employés d'une compagnie d'électricité ont été massacrés aujourd'hui à l'arme blanche et au pistolet.
Certains jours, on a reçu plus de 40 corps.
Les faits sont attribués à la Mara MS, dont les membres ont pour habitude de se cacher dans les grottes de la région.
Un peu partout en Amérique centrale, les gangs se développent, se multiplient. Criminalité chronique, pauvreté extrême, corruption généralisée, incertitude économique et politique. Autant d'éléments par lesquels la violence s'est installée à des niveaux atteints nulle part ailleurs. Au Salvador, par exemple, un des pays qui connaît le plus fort taux d'homicides au monde, les jours sans assassinat sont à marquer d'une pierre blanche. En moyenne, ce sont près de 15 personnes qui sont tuées chaque jour dans ce petit pays d'Amérique centrale. C'est 7 fois plus qu'en France, pour une population 10 fois moins nombreuse. Dans un sondage effectué en 2015 au Nicaragua, cette fois, la peur des pandillas à ces bandes de jeunes apparaissent comme la deuxième préoccupation dans l'opinion. Une menace réelle, mais peut-être aussi amplifiée, instrumentalisée par des médias à la recherche de récits sensationnels et des gouvernements prompts à criminaliser ces groupes de jeunes désocialisés. Alors, quelle responsabilité pour ces gangs et pour les États dans la violence endémique qui sévit en Amérique centrale? Quels sont leurs liens avec le narcotrafic? Comment la drogue, précisément, a transformé leur mode d'action et leur organisation? Nous nous intéresserons à toute l'Amérique centrale, mais en particulier au Nicaragua, mais également au Mexique, même si il ne fait pas partie stricto sensu de l'Amérique centrale. Il tient une place évidemment importante, très importante, pour comprendre comment se structure cette violence des gangs et leur rapport au trafic de drogue dans cette région-là. Pour évoquer toutes ces questions, avec nous ici en plateau, d'abord Adèle Blasquez, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'EHESS. Vous travaillez sur la violence et les relations de pouvoir dans le Sinaloa, un état du Mexique. On y reviendra. Et puis également avec nous en duplex depuis Genève, Dennis Rogers. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin, Dennis Rogers. Vous êtes en duplex depuis Genève, vous êtes professeur en études du développement à l'université d'Amsterdam. Vous vous intéressez en particulier au Nicaragua depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous êtes intéressé donc à ces gangs et à leurs évolutions depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez étudié en particulier un quartier que vous appelez Luis Fanor Hernandez, un quartier pauvre de Managua, la capitale. La violence qu'on voit aujourd'hui avec ces bandes, ces pandillas, comme on les appelle au Nicaragua, n'a rien à voir avec celle qui existait dans les années 80, évidemment, où le pays était plongé dans une guerre civile, il faut le rappeler, à la suite de cette révolution sandiniste de 1979, dont on parlait ici même lundi. Les années 90, la montée en puissance aussi des trafics de drogue ont considérablement bouleversé les ressorts de la violence et son organisation. On va voir ça avec vous ce matin, mais d'abord peut-être un mot un peu général, et peut-être que je poserai également cette question à Adèle Blasquez, mais souvent c'est vrai qu'on perçoit cette violence des gangs comme étant finalement le résultat d'une forme de chaos social généralisé face à un État failli. Finalement, on voit cette violence comme totalement désordonnée. Et vous récusez-vous cette idée justement d'absence de logique? Pour vous, au contraire, cette violence, elle révèle justement une forme de structuration sociale. C'est une violence extrêmement meurtrière, bien sûr, mais d'une certaine manière ordonnée, Dennis Rogers.
Tout à fait. Je pense qu'en fait, il faut penser à la violence dans un sens très large. La violence est un des premiers moyens d'organisation sociale. C'est un des moyens les plus primaires d'organisation sociale. Et donc, à un certain niveau, les gangs sont un phénomène social qui émerge quand il n'y a plus rien. Donc, c'est quelque chose de très primaire. C'est une forme d'organisation très basique, mais en même temps qui a une logique. Les bandes ne sont jamais des groupes anarchiques sans loi ni foi, disons. Elles ont toujours des règles. Elles ont toujours, les individus participent en faisant des choix. Et les relations des bandes, disons que varient énormément, mais entre les bandes et les communautés, il y a des relations très, très distinctes entre différents contextes. Mais je pense qu'il est surtout très important aussi de différencier entre différents types de violences et différents types de groupes violents. On utilise le label bande ou gang pour parler de beaucoup de types de groupes différents.
Oui, d'ailleurs, il faudra peut-être un peu expliquer les choses, parce que par exemple, là, moi, j'ai utilisé les deux termes pandillas et maras, et c'est pas exactement la même chose.
Pas du tout. En fait, les pandillas sont un phénomène qui date des années 40 en Amérique centrale, avec la première grande poussée d'urbanisation dans la région. Et c'est un phénomène qu'on peut comparer aussi aux bandes qui se sont développées aux États-Unis, à Chicago dans les années 20, ou même en France, à la fin du 19e siècle, les Apaches, par exemple, qui sont liés à l'urbanisation des banlieues en France post l'époque haussmanne. Mais en même temps, donc ces groupes qui sont assez traditionnels, c'est des groupes qui émergent d'un contexte local, donc qui répondent aussi à des contraintes et des règles sociales et culturelles locales. Ils sont très différents des maras. Les maras, en fait, ont leurs origines dans un phénomène d'expulsion, ou de migration en premier, de phénomène de réfugiés des pays d'Amérique centrale vers les États-Unis pendant les années 80 et les guerres civiles et les révolutions en Amérique centrale. Et après, l'expulsion dans les années 90 de ces centre-américains vers l'Amérique centrale. Et souvent des jeunes qui avaient grandi aux États-Unis, qui étaient rentrés dans des bandes, en partie pour contrer les phénomènes d'exclusion qu'ils rencontraient aux États-Unis. Et donc, ils ont apporté un petit peu une culture de gang américaine qui était déracinée. Et donc, ça a donné lieu à un phénomène de bande, de ces maras beaucoup plus violentes, beaucoup plus autonomes du contexte social, on va dire, que les pandillas.
Oui, vous avez raison de rappeler ça, parce qu'effectivement, dans les années 90, les États-Unis avaient renvoyé un certain nombre de criminels enfermés sur le territoire américain vers leur pays d'origine, le Salvador, le Honduras, le Guatemala, et tout ça a participé finalement d'une nouvelle forme de criminalité, et donc avec cette culture criminelle qui venait en l'occurrence des États-Unis. Mais là, en l'occurrence, je crois que le Nicaragua, lui, a été épargné par ces renvois massif de criminels. Hein.
Ben, tout à fait, mais en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de maras au Nicaragua. Ouais. On n'a que des pandillas.
Allez-y.
Et c'est en partie pour ça que les niveaux de violence au Nicaragua sont quand même moindres Absolument. Que le Salvador, Honduras ou Guatemala.
On va y revenir. Adel Blasquez, je voudrais vous entendre sur cette question de cette violence désordonnée que j'évoquais. En réalité, elle n'est pas si désordonnée que ça. C'est pas l'anarchie, pour reprendre le terme de Dennis Rogers. Alors évidemment, c'est extrêmement violent, ça produit une violence terrible et qui est extrêmement problématique pour ces sociétés. Mais il y a des logiques, il y a des règles, il y a des systèmes d'organisation derrière tout ça.
Oui, au-delà
des... Approchez-vous du micro.
Au-delà de la question des systèmes d'organisation de la violence en soi, ce récit auquel vous faites référence a en fait permet d'invisibiliser l'inscription de cette violence dans les rapports sociaux locaux et au niveau national. Donc la manière dont elle est organisée, la spectacularisation de la violence, tend en fait à effacer la question de son ancrage social et politique qui est primordial.
Il faut rappeler à propos du Nicaragua, Dennis Rogers, que le pays a connu plusieurs périodes de dictature. Il y a évidemment le long règne de la famille Somoza, avec ses trois membres qui ont été présidents durant le XXe siècle, avec évidemment cette révolution en 79, les années 80 avec cette guerre civile. Donc, sans dire qu'il existe une culture de la violence, parce que ça n'aurait pas de sens, en tout cas, il y a dans ce pays, le Nicaragua, depuis des décennies, une histoire par laquelle la violence s'est continuellement imposée à la société.
Oui, on peut dire ça jusqu'à un certain niveau, mais par exemple, si on reprend un petit peu cette thèse pour parler de l'Europe, l'Europe jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avait essentiellement connu une guerre toutes les 10 ans. Et on parle pas de culture de violence en Europe. Donc je pense que c'est un petit peu trop facile de faire cet amalgame guerre ou autoritarisme et violence. Je pense qu'il y a des facteurs qui sont beaucoup plus précis. Par exemple, une des raisons pour laquelle il y a une explosion des bandes, des pandillas au Nicaragua, après le changement de régime en 1990, c'est que, en premier, le gouvernement sandiniste dans les années 80 avait distribué énormément d'armes à la population afin qu'elle puisse se défendre contre une éventuelle invasion américaine. Et aussi, l'armée nicaraguayenne était réduite à peu près 120 000 personnes à 10 000 personnes en l'espace de 8 mois. Et étant donné que l'âge de service militaire était de 16 ans, on s'est retrouvé avec une masse de jeunes avec des armes et avec un avec une connaissance de l'utilisation des armes qui essentiellement a un petit peu turbochargé les pandillas.
Oui, évidemment, dans une crise économique, sociale, politique, ces jeunes un peu désœuvrés, certains se sont retrouvés dans des logiques de gang.
Mais il faut dire que ces logiques de gang n'étaient pas des logiques nécessairement criminelles. Ouais. Au début, ces logiques de gang, c'était en fait une logique d'autodéfense, autodéfense de soi, autodéfense de la famille, autodéfense du quartier. Et ceci s'est un petit peu institutionnalisé dans des formes de violence assez ritualisées, ce qui a donné lieu à une violence assez chronique, mais en même temps une violence qui prévisible, et donc les habitants de quartiers pauvres pouvaient un petit peu organiser leur vie autour de cette prévisibilité.
Oui, une violence ritualisée, et c'est tout le cœur du propos que je voudrais qu'on essaye d'approfondir à présent. Parce que vous avez donc fait ce terrain du côté du Nicaragua, vous êtes allé par deux fois dans un quartier que vous avez appelé Luis Fanor Hernández, d'abord une première fois dans les années 96, et puis ensuite en 2002-2003, et vous avez vu une véritable rupture entre ces deux moments. Alors on va commencer par 1996. À quoi ressemblait la pandilla que vous avez rencontrée dans ce barrio, dans ce quartier, dans ce milieu des années 90. Combien de jeunes s'en revendiquaient? Quel était leur profil? Et comment ils s'organisaient? Comment s'organisait cette violence, Dennis Rogers?
Donc, il y avait à peu près, à l'époque, à peu près une centaine de membres de la bande. Mais en même temps, je dis à peu près parce que à cette époque-là, disons que la bande était quelque chose d'un petit peu flou. Il y avait quand même un groupe central assez identifiable, disons d'une soixantaine, septantaine de personnes. Et après, il y avait d'autres membres, des personnes qui étaient considérées membres de la gang, mais qui participaient de manière épisodique dans les activités de la bande. Mais donc, cette bande essentiellement était organisée autour de trois choses. Premièrement, protéger le quartier et les habitants du quartier. Donc, et ceci impliquait entrer en guerre avec des pandillas locales et rivales d'autres quartiers afin de s'assurer que ils ne rentraient pas et ils n'attaquaient pas les membres de la communauté locale. Deuxièmement, il y avait quand même aussi toute une question identitaire, donc qui était liée non seulement à l'identité du quartier, mais aussi à une hiérarchie symbolique réputationnelle. Donc certaines bandes qui avaient certains membres de bandes, disons, qui étaient connus pour avoir assassiné plusieurs personnes ou connus pour être très 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 violents, augmentaient la réputation de la bande. Et finalement, il y avait aussi un aspect de délinquance, mais c'était plutôt de la petite délinquance et qui respectait une règle cardinale que les membres de la bande n'attaquaient jamais ou ne commettaient jamais de crimes contre les membres du quartier local.
Oui, vous parlez d'identité. Il y avait effectivement une identité de groupe aussi qui se construisait parce que vous racontez que ces jeunes s'adonnaient évidemment à des méfaits divers et variés et qu'avec leur butin, ils achetaient des cigarettes, de l'alcool, de la drogue, de la marijuana, qu'ils consommaient en groupe. Et ces expériences communes, d'une certaine manière, fondaient cette identité de groupe. Avec évidemment cette règle d'or, c'est comme ça qu'elle est appelée, que vous rappeliez, qui était celle qui consiste à ne pas s'attaquer aux habitants du quartier, voire même d'organiser d'une certaine manière leur protection à travers des rondes, des accompagnements, etc. etc. La question d'Anis Rogers, c'est que, pour comprendre bien cette violence, regardons aussi ce qui se passait lorsque ces pandillas s'attaquaient les unes les autres. C'était évidemment des choses qui faisaient beaucoup de morts. Vous rappelez par exemple ce chiffre de juillet 96 à juillet 97, on a quand même une douzaine de morts dans ces batailles intra-gangs. Mais là encore, vous dites que ces guerres n'étaient pas chaotiques au sens premier du terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui motivait justement ces luttes et comment elles se déroulaient sur le terrain? Vous parlez de guerre quasi ritualisée.
Voilà, c'était en fait... Le Nicaragua, au début des années 90 et milieu des années 90, est un endroit assez... qui souffre d'une certaine insécurité chronique, où il y a énormément d'incertitudes, pas seulement au niveau de la violence, mais au niveau économique, au niveau politique. Les élections de 96, par exemple, beaucoup de gens pensaient qu'il y aurait une guerre civile, une nouvelle guerre civile immédiatement après les élections, ce qui n'a pas eu lieu, mais beaucoup de gens s'y préparaient. Donc, dans ce contexte-là d'insécurité, en fait, les bandes émergent comme un phénomène structurel qui offre une manière d'un petit peu circonscrire cette insécurité à travers leur guerre ritualisée. Donc, les bandes, imaginez qu'un quartier sans bandes, elle reste la proie à d'autres bandes de manière un petit peu chaotique. On ne sait jamais quand une autre bande va rentrer ou quand on pourrait être victime. Alors, la bande du quartier commençait à développer des guerres, littéralement, ils les appelaient des guerres contre d'autres bandes. Ça pouvait commencer pour des raisons un petit peu bêtes. Un individu volait la casquette d'un autre individu d'une autre gang ou quelque chose comme ça. Mais structurellement, ce que ça faisait, c'est que il y avait un processus à travers lequel les guerres se déroulaient de manière très précise. Les premières batailles de bandes se déroulaient toujours avec des jets de pierre ou en se tabassant avec les mains. La prochaine bataille impliquait une escalation, donc une augmentation de l'intensité de la violence avec de nouvelles armes. Donc la deuxième bataille impliquait l'usage de couteaux ou éventuellement de mortier maison. La troisième bataille utiliserait des armes à feu et la quatrième peut-être des armes automatiques et des grenades à fragmentation. Ce qui faisait que, en fait, les habitants du quartier, sachant que les guerres se déroulaient toujours de cette manière fixe, après la première bataille, ils savaient qu'ils devaient rester chez eux quand même pendant les deux, trois prochains jours pour éviter de se faire, de prendre une balle.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est très important là-dedans, c'est que finalement, ça atténue le caractère imprévisible de ces batailles. Ces pandilleros s'organisent en compagnie avec des objectifs stratégiques prédéterminés, avec une force de réserve, vous expliquez ça, pour s'adapter à l'évolution de la bataille. On a une séquence quasiment immuable dans le choix des armes qui est utilisée. Et tout ça permet aux gens, finalement, de lire ce qui est en train de se dérouler et de prévoir les choses.
Voilà, donc moi, je parle de ça en termes de scénario. Sociaux. Donc, les bandes présentaient des scénarios pour la violence à la population locale qui leur permettaient de lire ça et de lire un petit peu la violence et de s'organiser en conséquence.
Vous faites un parallèle, je voudrais vous entendre là-dessus, et puis ensuite on passera aux années 2002-2003 pour voir ce qui a changé. Mais vous faites un parallèle sur lequel je voudrais vous entendre, entre les actions de ces pandilleros et les attentats suicides en Israël-Palestine. Vous écrivez la chose suivante: tout comme les attentats suicides en Israël-Palestine, le pandillerismo nicaraguayen s'impose comme une pratique sociale tentant à contrecarrer des conditions ambiantes de mort sociale, et en d'autres termes, vu l'opposition proposée à un processus de mort sociale, une forme de survie sociale. Quel lien entre les pandillas du Nicaragua et les attentats suicides d'Israël? Et en quoi ces gangs peuvent justement constituer une stratégie de survie sociale?
Disons que la comparaison est plutôt au niveau théorique qu'en empirique. On va pas comparer ces deux formes de violence directement. En fait, là, je me base en partie sur le travail d'un anthropologue libanais qui s'appelle Hassan Hadje, qui a écrit un petit peu sur la logique des attentats suicides. Souvent, dans la littérature, on parle des attentats suicides comme l'ultime acte irrationnel, quelqu'un qui se tue et emmène d'autres personnes avec lui ou elle. Mais en fait, Hadje parle du fait qu'il faut regarder l'attentat suicide dans son cadre social plus large. Les auteurs d'attentats suicides souvent ne pensent en tant qu'eux-mêmes qu'ils ne sont pas en train de seulement mourir. Ils échangent une vie bloquée, une vie sans espoir, une vie sans débouché pour une vie sociale, une vie symbolique qui en même temps aussi fait vivre toute une communauté. Donc, dans le cas du Nicaragua, j'essaie de parler un petit peu de la manière dont la bande devenait un petit peu le symbole, l'index symbolique de la communauté. La communauté dans laquelle je fais mon travail. Et en fait, ça fait 20 ans que je vais régulièrement, pas seulement ces deux premières fois. Mais, cette communauté, dans les années 90, était très très pauvre. Et en fait, cette pauvreté avait vraiment distendu les liens sociaux entre les familles, même au sein des familles. Et la seule institution sociale dans le quartier qui réunissait des gens, qui faisait que des gens allaient se voir pour parler des événements, était la bande. Donc après une bataille de bande, des voisins qui normalement se parlaient jamais venaient se retrouver afin de dire « Est-ce que tu as vu ceci ? Ou est-ce que tu as vu ce que lui, il a fait ?» etc. Donc c'était donc la bande et sa violence devient un petit peu une forme de sociabilité. Donc à ce niveau-là, ça structure socialement le quartier et la communauté.
Ça, c'est quelque chose, Adèle Blasquez, que vous avez dû aussi rencontrer du côté du Mexique. Ça structure évidemment, ça organise les liens sociaux aussi.
Oui, tout à fait. La question du rapport, en fait, assez paradoxal à la violence qui, d'une part, suscite une réelle incertitude dans un village comme celui dans lequel je travaille. D'autre part, si on le met en regard avec une relative inaccessibilité des institutions étatiques pour la résolution de certains conflits, on voit apparaître une certaine prévisibilité de la violence. C'est quelque part quelque chose qu'on peut anticiper parce qu'on connaît, on partage les repères qui peuvent nous aider un petit peu à jalonner ce qui peut ou non donner lieu à une action violente.
Ce village auquel vous êtes intéressé, c'est Badiraguato, mais on y viendra dans quelques instants. D'abord, je voudrais qu'on fasse donc un saut dans le temps, Denise Rogers avec vous, toujours au Nicaragua, toujours dans ce barrio Luis Fanor Hernández. Vous arrivez donc en 2002-2003. Et vous constatez une énorme évolution. D'abord, les membres de cette pandilla sont beaucoup moins nombreux, une vingtaine. Ils sont plus âgés aussi, ils ont entre 17 et 23 ans, dites-vous. Et puis surtout, leur comportement délinquant a totalement évolué. En quoi, justement ?
Essentiellement, l'explication, c'est l'arrivée du trafic de la drogue. Dans les années 90, la cocaïne ne passait pratiquement pas par le Nicaragua, en partie pour des raisons infrastructurelles. On a construit une route de la côte Caraïbe du Nicaragua à la côte Pacifique, ce qui tout d'un coup fait que la drogue commence à passer par le Nicaragua. Et ça s'organise de manière très ad hoc, souvent à travers des individus, mais souvent des anciens membres de la gang qui, après, commencent à chercher un petit peu un appareil de sécurité local. Ils retombent sur la bande qui deviennent aussi des petits vendeurs, revendeurs dans la rue. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un basculement de la logique de la violence. La violence qui, dans les années 90, était vraiment une violence d'autodéfense, une violence presque communautaire, devient vraiment une violence organisée autour du trafic de la drogue, de la protection du trafic de la drogue et contre la communauté locale. Donc les membres de gangs qui, avant, protégeaient la communauté locale commencent plutôt à les terroriser afin de minimiser les risques qu'on dénonce le trafic de la drogue.
Donc la règle d'or consistant à ne pas s'attaquer aux habitants du quartier vole en éclats.
Voilà. Il y a même un inversement complet de la logique de la violence. Avant, dans les années 90, les membres de la bande attaquaient n'importe quel étranger qui rentrait dans le quartier et protégeaient les habitants du quartier. Alors que dans les années 2000, ils attaquent les habitants du quartier, mais laissent rentrer tout étranger, car tout étranger est probablement client potentiel.
Oui, et puis ils les attaquent, et ils les attaquent d'une façon très différente de celle que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire avec ce caractère prévisible aussi. L'arrivée de la drogue, la consommation de crack, elle rend ces criminels totalement imprévisibles. Ce qui a évidemment des conséquences absolument désastreuses pour la communauté qui en réalité ne sait absolument plus lire le mode de fonctionnement de ces criminels.
Exactement, c'est ça. Et en fait, et cette situation s'est empirée pendant un moment après, parce qu'en fait, avec la professionnalisation du trafic de la drogue, on voit émerger dans le quartier une organisation que les habitants locaux appelaient un cartelito, un petit cartel. Mmh. Et ce cartelito, essentiellement, élimine la bande et décide de reprendre à son compte tout le trafic de la drogue. Et c'est en même temps... le cartelito est constitué d'individus qui ne sont pas nécessairement du quartier. Au moins, avec la bande, les gens savaient qui étaient les membres de la bande. Et donc, vers le milieu des années 2000 et la fin des années 2000, on se retrouve avec un groupe que personne ne connaît exactement, avec des individus, des étrangers qui commettent des actes de violence au sein du quartier et une hausse la terreur au sein du quartier, au sein de la population du quartier.
Ouais. Et puis il y a peut-être aussi une chose qu'on pourrait ajouter qui participe aussi à ce flou, c'est que l'identité de groupe dont on parlait tout à l'heure, elle aussi d'une certaine manière, elle vole en éclats parce que avec l'arrivée de la drogue, on gagne beaucoup plus d'argent, on a aussi un mode de consommation qui change, c'est-à-dire que vous écrivez très bien, vous expliquez très bien que on se met à consommer de façon beaucoup plus individualisée. De façon beaucoup plus individualiste aussi, et que cette identité de groupe, comme elle était décrite pour les années 90, elle évolue beaucoup également.
Et ça a aussi à faire avec le développement d'une logique économique à la gang. Donc dans certains de mes écrits, j'ai parlé de la manière dont la bande passe d'une logique plus sociale à une logique plus économique. Donc il y a l'aspect de la consommation plus individualiste du crack. Essentiellement, le crack est une drogue qu'on ne partage pas vraiment, parce que déjà avec une taf de marijuana, c'est beaucoup plus facile de distribuer ça entre plusieurs et de prendre fumer un petit peu et puis la passer à un prochain avec le crack, ça se consomme beaucoup plus rapidement. Mais il y a la logique économique. Donc la logique économique, quand les membres de bande sont des petits revendeurs, essentiellement ils terminent être en compétition les uns avec les autres. Donc il y a cette individualisation économique de la bande aussi.
Du Mexique au Panama, l'autre Amérique, c'est notre série, notre sujet cette semaine dans Culture Monde, des pandillas, omaras, les sociétés face à la violence. On est avec Dennis Rogers en duplex depuis Genève, mais aussi Adèle Blasquez avec nous ici à Paris.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Adèle Blasquez, je me tourne vers vous. Vous avez donc réalisé, vous, un travail d'ethnographie pendant près d'un an et demi dans le cadre de votre thèse de novembre 2013 à juin 2015, en particulier dans cette municipalité de Badiraguato, dans le Sinaloa, un état de la côte pacifique, notamment connu pour abriter ce cartel dit de Sinaloa. Vous avez tenté de comprendre justement comment s'organise l'économie criminelle de cette région, le rapport aux institutions, aux lois que ses habitants entretiennent. On verra comment peut-être également en retour, d'une certaine manière, l'État participe d'une forme de criminalisation de cette municipalité. Votre démarche a consisté à retourner donc aux situations régionales, notamment dans ces zones rurales marginalisées, pour comprendre justement les transformations économiques, sociales et politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'ensemble du Mexique, pour déconstruire un peu ce discours d'une violence supposément ancrée dans la culture et l'histoire de ces régions. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors d'abord, peut-être un tout petit mot sur Badiraguato, qui est une petite commune où vivent à peine 40 000 habitants. Depuis longtemps, elle est précédée par sa réputation. Déjà dans les années 40, on l'avait surnommée la Sicile mexicaine, parce qu'il y avait là des plantes pavots qu'on y faisait pousser et des trafiquants qui en organisaient le commerce. Et parmi les grandes figures du narcotrafic originaire de cette région, Joaquín Guzmán, dit El Chapo, mais bien d'autres grandes figures du narcotrafic proviennent de cette région, la famille Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, ou encore Ernesto Fonseca Carrillo. Alors nous, ça nous dit peut-être pas grand-chose, mais au Mexique, tout le monde connaît ces gens, tous des membres éminents du fameux cartel de Guadalajara dans les années 80. Comment expliquer, Adèle Blasquez, que cette région concentre à ce point autant de chefs du narcotrafic?
Alors, la question de l'explication, il y a plusieurs tendances. Une des dimensions d'essentialisation de cette violence et de cette organisation de la drogue va aller du côté de parler du sang chaud de Badiraguato. Donc, évidemment, ce n'est absolument pas une trame très très intéressante. Ce qui est certain, c'est que c'est un des premiers lieux de production du pavot, directement lié avec une migration chinoise qui date de la fin du 19e, liée aux grands travaux de l'Ouest, plus généralement américain, des chemins de fer. Initialement, ce qu'il faut aussi relativiser, c'est le caractère de trafiquant des personnes qui travaillaient autour du pavot dans les années 40, dans les années 30. C'est-à-dire que il y a en fait une consommation qui est beaucoup plus locale, qui est sur la partie de la plaine de l'État du Sinaloa, dans les grandes villes, où il y a justement cette migration chinoise et assez peu d'exportations. Et en tout cas, c'est finalement les personnes qui s'en chargent. C'est une activité marginale autour de l'extraction minière, autour de l'élevage, autour d'un plus grand panel d'activités. Il y a cette organisation du commerce de pavots qui implique d'avoir à la fois des connaissances dans la partie montagneuse, qui est en fait une région très très accidentée, donc ce qui permet aussi, les difficultés d'accès sont assez favorables à cette activité, et donc d'une part une connaissance et un ancrage social dans cette montagne, et d'autre part des contacts politiques sur la plaine.
Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera.
Joaquín Guzmán dit El Chapo. On entendait là l'atmosphère lors de l'arrestation de El Chapo en janvier 2016, diffusée à la télévision mexicaine, et puis l'annonce du président mexicain Enrique Peña Nieto, qui officiellement annonçait la nouvelle arrestation, parce que c'était pas la première d'El Chapo. Début 2017, il y a quelques semaines, El Chapo a été extradé aux États-Unis après s'être évadé plusieurs fois dans des conditions extrêmement rocambolesques. On se souvient notamment lorsqu'il s'était échappé via un tunnel dans lequel était installée une moto sur rail. C'était quelque chose d'assez incroyable. Il avait multiplié les recours pour éviter d'être extradé, mais il n'a pas pu échapper et doit désormais répondre aux États-Unis à 17 chefs d'accusation. Donc, a priori, Adel Blasquez, El Chapo ne devrait pas sortir de prison. Il devrait rester derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Devrait plus être en capacité non plus de conduire ses affaires depuis sa prison américaine. Et c'est une chose qu'on voit également à l'extérieur de la prison. Parce que la conséquence de tout ça, c'est qu'on voit une guerre de succession qui est en train de se dérouler en ce moment même dans ce Sinaloa. Pic d'homicide incroyable. 116 meurtres depuis janvier. Donc, paradoxalement, on voit bien que la neutralisation d'El Chapo entraîne ce regain de violence.
Oui, oui, bien sûr. Depuis juin 2016, cette guerre de succession était déjà un petit peu tapie dans le village, ce qui était absolument inimaginable il y a de ça deux ans, et finalement est arrivé. Donc, qui consiste en l'attaque du hameau d'origine d'El Chapo, où vivait sa mère, par une faction qui a donc pu pénétrer dans la montagne et attaquer avec une centaine d'hommes armés. Ce qui était inimaginable.
La violence, Adel Blasquez, dans ce Mexique, dont je rappelle qu'on a parfaitement conscience qu'il ne fait pas partie de l'Amérique centrale, je dis ça parce qu'on a reçu quelques mails nous disant « mais attention, le Mexique n'est pas dans l'Amérique centrale ». Oui, c'est pour ça qu'on a intitulé cette série « Du Mexique au Panama, l'autre Amérique » et qu'on n'a pas intitulé vraiment l'Amérique centrale. Mais en tout cas, cette violence, elle n'a pas toujours eu ces niveaux-là au Mexique pendant longtemps. Elle était relativement contenue. Alors pas forcément parce qu'il n'y avait pas de narcotrafic, mais parce qu'en réalité, il était, disons, contrôlé, géré par l'État. Pendant longtemps, c'est le Parti révolutionnaire institutionnel qui était aux manettes. Dès sa formation en 1946, il prend le pouvoir. Il le lâche qu'au début des années 2000. Et en réalité, ça va avoir une réelle incidence à la fois sur la manière dont justement est contrôlé, géré, contenu ce trafic de drogue et de fait sur les niveaux de violence également.
Oui, alors c'est tout à fait vrai. En même temps, il faut relativiser cette datation de la violence, l'idée d'une explosion sans précédent à partir des années 2000. On voit par exemple en fait un mouvement de déplacement de la violence dans les années 90. Les personnes qui habitaient dans les grandes villes du Mexique, à Mexico, Guadalajara, parlaient par exemple d'une insécurité terrible en termes des enlèvements qui visaient en particulier les classes aisées. Et donc ce qui est particulièrement vrai, c'est que cette violence qui était extrêmement présente dans les villes dans les années 90 s'est complètement ruralisée. Aujourd'hui, Mexico est une des villes les plus sûres du Mexique.
Mais il y a une thèse qui consiste à dire au Mexique que, d'une certaine manière, le narcotrafic était dans un rapport de soumission, mais en tout cas de subordination peut-être par rapport au pouvoir public, et que le gouvernement fédéral a d'une certaine manière passé la main aux États, aux gouvernements locaux, et que cela a eu un effet sur les niveaux de violence.
Oui, alors c'est la théorie de la Pax Priista, donc l'idée que ce parti État était le seul à même à contenir la violence à travers une délégation de l'organisation du trafic. De mon point de vue, il faut aussi prendre en compte en fait la singularité de toutes les situations régionales. Si on prend par exemple, donc encore une fois, ce village qui a l'intérêt d'être le village d'origine de ces grands chefs, l'organisation du trafic dans les années 30, une des personnes qui s'en charge est en fait le maire de l'époque. Il est à la fois maire, il est à la fois éleveur, encore une fois, avec plusieurs... Et donc, de là à savoir si c'est le maire qui est en train de contrôler le trafic ou si c'est quelqu'un qui trafique l'opium qui, à la fois, est maire, c'est ce genre de situation qui amène, en fait, à assez relativiser cette question.
Oui, il faut complexifier les choses, il faut nuancer les choses, parce qu'on entend parfois des analyses avec, d'un côté, cette idée que, finalement, l'État contrôlerait le narcotrafic, et puis, de l'autre côté, le fait qu'au fond, le narcotrafic narcotrafique serait responsable d'une certaine manière d'une forme de faillite de l'État, mm-hmm. en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est beaucoup plus nuancé que ça.
Oui, c'est bien sûr plus nuancé. L'idée de cette gangrène de l'État par le narcotrafique, c'est un petit peu faire omission de toutes les situations qui sont maintenant assez bien documentées, de la création, de la transformation des organisations du trafic de drogue en cartel, qui, si on regarde, par exemple, dans la région du Guerrero, donc la région dans laquelle ont été enlevés les 43 étudiants il y a 2 ans, on voit très très bien l'histoire d'une professionnalisation de cette organisation liée à la délégation à la délégation à un moment donné de l'État pour réprimer un mouvement de guérilla de gauche dans les montagnes. L'État a sous-traité à des rancheros, qui sont des petits propriétaires terriens, une partie de cette répression, et en les armant, en leur donnant beaucoup de ressources, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit émerger une forme nouvelle de l'organisation de la culture du pavot, qui était par ailleurs présente depuis plusieurs décennies. Donc,
on va essayer peut-être dans quelques instants de s'intéresser à cette question foncière qui est évidemment au cœur aussi de ces problématiques. Mais d'abord, un mot, Adèle Blasquez. Vous avez publié un article intitulé « Désir de justice, attente de l'État et recours à la violence », dans lequel vous racontez notamment la manière dont la presse évoque les violences entre forces de police et narcotrafiquants, en particulier dans cette région donc de Badiélaguato, donc lieu de naissance de ces narcotrafiquants notables. La presse réduit ces violences, dites-vous, à des affrontements assez simples, assez simplistes, entre délinquants d'un côté et puis policiers de l'autre, entre criminels et État. Mais vous dites que la perception des événements est assez différente lorsqu'on la regarde depuis précisément cette municipalité. La qualification des faits et des acteurs en présence est très différente. En quoi ?
Alors, toute cette histoire, en fait, s'inscrit dans une histoire plus longue d'un rapport à l'État assez complexe, dans lequel, depuis les années 70, il y a une très très forte répression militaire dans la région, donc plusieurs bases militaires installé dans ce village, qui mène des destructions des champs, avec parfois des affrontements. Donc, l'histoire selon laquelle il y aurait des délinquants et d'autre part un État qui résout les conflits est assez contradictoire avec le vécu des personnes sur place qui vont avoir du mal en fait à se reconnaître dans cette idée. On appelle les militaires le gouvernement. Donc, on a un rapport à l'État qui est particulièrement du côté répressif. Donc et d'un autre côté, les gens du village, on les connaît, et ils sont sans arrêt taxés de délinquants. Quelqu'un qui est de Badiélaguato, en sortant de sa municipalité, va toujours être ramené. Il est de Badiélaguato, donc il est un criminel. Donc ça induit forcément un décalage à l'intérieur du village.
Vous écrivez, je vous cite, « Depuis les années 60, la répression militaire de cette monoculture, celle du pavot, alimente un soupçon de criminalité généralisée qui s'étend à tous les habitants et imprègne les relations avec les institutions publiques. C'est-à-dire qu'on perçoit dans les discours officiels des autorités toujours ce soupçon d'une criminalité qui pèse sur cette municipalité. »
Oui. Tout à fait, on le voit particulièrement à travers la question des aides publiques. Les programmes qui visent l'amélioration des conditions de vie dans les régions rurales sont perçus comme pas réellement nécessaires. On peut entendre très souvent à Culiacán cette idée selon laquelle si à Badiélaguato, tout le monde trafique de la drogue, donc tout le monde engrange ses profits mirobolants liés à la drogue, et donc il n'y a pas de nécessité d'aider les familles. Or, ce n'est absolument pas le cas. Il y a quelques personnes qui tirent effectivement des profits, mais le profit, il est lié au voyage qui est interdit, au commerce qui est interdit, et au prix de la drogue de l'autre côté de la frontière. Il n'est pas lié à la production en elle-même. Or, la majorité des gens sont inscrits dans des économies de subsistance, au sens où ils sont dépendants d'une culture agraire qui est, en plus d'être soumise aux intempéries comme n'importe quelle culture, et soumise à la possibilité de la répression qui pèse jour après jour.
Continuons un peu sur cette construction des discours. Vous analysez notamment le discours narratif des habitants autour d'un événement tragique qui a vu la mort de 3 jeunes tués par des policiers à l'issue d'une course-poursuite. Le drame se produit lors d'une soirée dans laquelle s'affrontent donc ces jeunes et ces policiers autour d'une buvette. Et chacun reconstruit, vous l'expliquez très bien, a posteriori le déroulé des événements. C'est le cas de ces personnes que vous croisez, je crois, dans une épicerie, oui. Devant une épicerie. Et vous montrez bien comment, dans cette reconstruction, chacun laisse apparaître son propre jugement sur la place et le rôle des autorités, avec un maire qui finalement considéré que ces faits n'étaient pas si graves, avec un policier qui aurait abattu un des jeunes de plusieurs balles dans la tête après que ce dernier précisément l'ait imploré, l'ait supplié de l'épargner. Donc on voit très bien derrière ces discours, ces reconstructions, cette critique de l'État.
Oui, elle est. On la voit et à la fois elle est extrêmement tapie. On ne voit à aucun moment les gens sortir dans la rue et demander des comptes au chef de la police ou au maire pour avoir d'une part nié ces événements et ne pas leur avoir accordé d'importance. Par contre, on le voit dans l'intérêt qui est porté, dans la manière dont on essaye de reconstruire cette scène. Et ce qui va être extrêmement important, c'est que les personnes qui commentent, qui sont donc assez éloignées, mais qui peuvent connaître de plus ou moins loin les personnes concernées par ces événements tragiques, vont faire peser leur jugement sur la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que le statut d'une part, le chef de la police, d'autre part, des supposés délinquants, n'est pas opérant. Mmh. Ce qui est important, c'est comment il a tué. Et c'est là qu'on revoit un petit peu ce qu'évoquait Denis tout à l'heure, sur les règles, sur la prévisibilité de cette violence. Donc cette critique n'est pas explicite, pour autant elle est insinuée, elle est présente, mais il faut la chercher d'une manière qui est différente d'une manifestation de contestation.
Sur la prévisibilité, justement, c'est intéressant parce que vous avez aussi tout un discours autour de cet événement sur ce que pourraient être les représailles possibles si elles avaient lieu, et d'ailleurs les représailles vont arriver.
Alors voilà, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, suite à, donc à la mort de ces trois jeunes, dont l'une des morts est considérée comme ayant été injuste, réalisée de manière indue, les habitants attendent des représailles. À aucun moment on ne fait mention de la possibilité d'avoir recours à la justice. Et donc ça rejoint un truc qui est beaucoup plus général, qui est le rapport donc hostile des institutions vis-à-vis des habitants et vice versa. Il est à peu près inconcevable d'avoir recours au juge local pour régler un conflit.
Denis Rogers, je me tourne vers vous parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment se construisent les discours autour de cette violence. Denis Rogers, vous voyez des points communs avec le Nicaragua auquel vous êtes intéressé vous plus particulièrement, Denis Rogers?
Je pense qu'il y a pas mal de points communs, mais pas seulement au Nicaragua. Il faut penser aussi au niveau de la région. Il faut distinguer entre les phénomènes de criminalité et les phénomènes de criminalisation, par exemple. Donc la criminalisation, c'est les discours qui construisent les phénomènes d'une certaine manière. Et en Amérique centrale, un des points assez intéressants, c'est que, par exemple, il y a presque une compétition entre le Guatemala, le Salvador, le Honduras. D'année en année, un pays se dit être le plus violent du monde. Et on essaie d'augmenter les chiffres d'homicides, ou bien on projette le pays comme étant sur le point d'être de tomber en morceaux et d'avoir une migration de masse vers les États-Unis, ou bien des fois on invoque même la collaboration de gangs avec Al-Qaïda ou Daesh. Donc c'est vraiment des discours qui sont faits pour essayer de présenter le pays comme étant très violent afin d'attirer des fonds, surtout militaires, des États-Unis, qui fluent vers l'État. Le Nicaragua fait l'inverse, des fois. Il a un discours, à un moment donné, il y a quelques années, le Nicaragua avait même été aussi loin que de dire qu'ils avaient un taux d'homicide plus bas que la Suisse. Ce qui est, franchement, pas tout à fait crédible. Mais disons que ça fait partie, et ils ont tout un discours comme quoi la police au Nicaragua est une police communautaire, de proximité,
Et sachant qu'elle est assez peu présente, cette police, dans les quartiers que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé. Voire elle n'est pas présente du tout.
Sur 20 ans, elle n'était pas présente du tout dans les années au début. Après, elle est devenue plus présente avec la montée du trafic de drogue, mais moins pour réprimer le trafic de drogue, mais plus afin de pouvoir obtenir pour des raisons de corruption, on va dire. Plus récemment, maintenant, elle est présente de manière assez épisodique et assez violente. Il y a une nouvelle force de police qui s'appelle Los Dantos, donc déjà un nom assez dantesque. Ils sont tous habillés en noir, sans insigne, et puis ils viennent de manière et répriment les jeunes dans les espaces publics de manière assez violente. Pas aussi violente que au Salvador ou en Honduras ou au Guatemala, par exemple, ils ne les tuent pas, mais ils les tabassent, ils les dénudent, ils les déposent nus de l'autre côté de la ville. Afin un petit peu de les intimider. Mais en même temps, il y a toute une campagne médiatique de la police pour créer cette figure du jeune mâle des quartiers pauvres, la notion du pinta, de la Pinta. C'est un délinquant, et que la police doit protéger le quartier, la population du quartier de cette figure de la Pinta. Donc on revient avec ces notions de représentation de figure un petit peu diabolisée afin de pouvoir justifier certaines formes d'action.
Ouais, il y a une forme d'instrumentalisation, d'utilisation en tout cas dans ces représentations. C'est une chose que vous avez évidemment vue du côté du Mexique, Adèle Blasquez,
oui,
également.
Oui, tout à fait. De manière assez générale, je rejoins complètement ce qu'était en train de dire Denis. Le discours de criminalisation est un merveilleux moyen de dépolitiser cette violence. C'est une violence criminelle dont le seul objectif est l'appât du gain. Et donc, ça permet d'effacer complètement la dimension que certains appellent, et je les rejoins, de nettoyage social de cette guerre contre la drogue. Le fait que dans la manière dont est menée la répression, on voit très clairement que d'une part il y a une mise en scène de cette chasse à l'homme quand vous évoquiez El Chapo, et d'autre part une répression qui touche généralement les personnes les plus vulnérables qui ont recours, faute de mieux, à une part, une miette de cette activité économique.
Il y a encore beaucoup de points que j'aurais voulu évoquer avec vous, Denis Rogers et Adèle Blasquez. On va pas avoir le temps de tout évoquer, malheureusement. Notamment, j'aurais voulu qu'on parle, Denis Rogers, de ce Bismarck. Vous avez écrit un article autour de cette figure, genèse d'un gangster. Malheureusement, je crois qu'on aura difficilement l'occasion là d'en parler pour les quelques minutes qui nous restent. Adèle Blasquez, il y a une chose, en revanche, que je voudrais vraiment comprendre du côté du Mexique. Parce que vous dites que les années 80 sont considérés comme, d'une certaine manière, l'âge d'or du narcotrafic mexicain. Les retombées économiques à ce moment-là sont considérables, mais vous dites aussi une chose, c'est qu'elles vont profiter donc à des nouvelles figures dont la trajectoire, dites-vous, diffère des anciennes grandes familles. Je voudrais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a changé pour que ce ne soit plus les grandes familles traditionnelles, historiques, qui tirent bénéfice du narcotrafic?
Alors, certaines des nouvelles figures qui émergent à partir des années 80 sont liées à d'anciennes grandes familles. Ce qui change à partir des années 70 et qui est lié d'une part à la répression, à l'opération Condor liée en association avec les États-Unis, c'est d'une part une répression de ces cultures qui est extrêmement forte, et d'autre part, en fait, le poids de l'image criminelle. La production de pavots et le commerce de pavots n'étaient pas aussi considérés socialement comme quelque chose de criminel. Plus les discours sur le caractère extrêmement nocif de cette activité prennent de place, plus il est difficile pour quelqu'un qui veut faire de la politique d'être aussi impliqué dans le... Donc on voit par exemple à l'intérieur d'une ancienne grande famille une scission entre ceux qui vont davantage jouer du côté de la carrière politique et ceux qui vont ne pas apparaître sur la scène publique et davantage se concentrer
Mais
sur cette activité.
Mais est-ce qu'il y a un lien avec la question de l'accès aux terres et des grandes réformes agraires qui ont eu lieu du côté du Mexique, notamment dans les années 90, 92 en particulier? Est-ce que cette question de l'accès aux terres va finalement organiser l'émergence de telle ou telle figure?
Alors, plus que organiser cette émergence-là, elle va entériner, la manière dont elle est mise en place, va entériner l'impossibilité d'avoir recours aux institutions foncières, les ejidos, pour avoir accès et avoir une garantie sur sa terre. Donc ça va être plus de ce côté-là.
La 18 es amor, miren cómo me tiene perro. Yo he sido marquero, pero también es rigor, hombre. Que les quede bien claro. Sí, les lo digo, para los que son nuevos, hombre. La pandilla no es un juego, esto es real.
Tout dernier extrait, La Vida Loca, un film de Christian Poveda qui était sorti en 2019, le quotidien des Maras au Salvador, La Mara 18, ce réalisateur Christian Poveda qui a longtemps vécu au Salvador, qui a commencé à s'intéresser à ces gangs dans les années 90, et puis presque 20 ans plus tard, en septembre 2009, il est assassiné, 4 balles dans la tête alors qu'il rentrait d'un tournage. Comment est-ce qu'on fait, toute dernière question à l'un et l'autre, Adèle Blasquez, pour, en tant qu'universitaire, travailler sur cette question des gangs sans risquer sa vie?
Alors, dans mon cas, en fait, de manière assez classique, en suivant une méthodologie classique de l'anthropologie qui consiste à m'installer dans le village et rester, m'immerger dans un espace dans lequel les personnes se connaissent entre eux. Et donc, cette question entre le fantasme de Badiraguato, se dénoue finalement dans des relations avec des personnes. Il y a des personnes qui sont sympas, d'autres un peu moins. Donc, déjà, ça permet un petit peu de désacraliser. D'autre part, la question de, effectivement de la menace que je peux représenter en fait vis-à-vis de personnes dont l'activité est considérée comme criminelle, je la gère en ne m'intéressant pas, en montrant un désintérêt assez marqué pour ces personnes de l'élite locale du narcotrafic, et en allant, comme vous le disiez, plutôt devant les épiceries avec des petits vieux qui sont inscrits dans d'autres économies, et donc toujours en opérant certains déplacements, ne pas aller dans la police, mais aller du côté des services sociaux de la mairie. Et aller à l'intérieur des familles, des producteurs, plutôt que de regarder les groupes armés.
Dennis Rogers, même question, il nous reste une minute.
Alors à peu près un petit peu la même méthodologie, sauf que dans un quartier pauvre, mais en même temps, disons qu'en m'installant dans les espaces publics, et bien sûr des espaces publics contrôlés par la bande, qui étaient des jeunes à un âge pas très loin du mien, moi j'avais 23 ans à l'époque, et donc on s'est mis en relation, mais ce qui a fait que sur les 20 prochaines années, essentiellement j'avais des liens très forts avec cette première génération, et donc j'ai quand même un certain vécu et un certain respect qui m'est donné par les nouvelles générations, et aussi par le fait que je me concentre uniquement sur ce quartier. Je ne parle pas, par exemple, avec la police, je ne vais pas essayer de faire des études comparatives avec d'autres quartiers. Donc c'est vraiment, on acquiert une certaine confiance, mais en même temps on accepte qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire.
Ce qui vous permet de décrire sur le temps long des parcours, et notamment celui de Bismarck, donc, dont je parlais tout à l'heure. On n'aura malheureusement pas eu le temps d'en parler, mais c'est vraiment un profil et un parcours absolument saisissant, étonnant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de reprendre rendez-vous, Dennis Rogers. Il faudra en reparler ensemble. Je me doutais qu'on n'aurait pas le temps de tout évoquer. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous, Dennis Rogers. Je rappellerai que vous êtes professeur en études du développement à l'université d'Amsterdam et que vous êtes co-auteur avec Jennifer Hazen de Global Gangs. Un grand merci également à vous, Adèle Blasquez, de nous avoir accompagnés. Vous êtes doctorante à l'EHESS et vous travaillez, donc on l'a entendu, sur cette violence et les relations de pouvoir dans le Sinaloa du côté du Mexique, qui n'est pas en Amérique centrale. Je le dis pour les auditeurs qui nous envoient des messages pour nous le signifier, nous en sommes conscients, mais en tout cas il nous paraissait intéressant aujourd'hui d'évoquer cette question du Mexique. On est quand même dans des logiques, comparaison n'est pas toujours raison, mais qui semblent éclairées. Il y a des points communs, évidemment. Un grand merci d'avoir été avec nous.
Que al rato me toca, y cuando ese día a mí se me llegue tirando la mara, quiero que me velen las rolas del barrio bien duro que suenen. En la vida y en la muerte siempre con las dos letras, que les quede claro que la mara se respeta. En la vida y en la muerte siempre con las dos letras, que les quede claro que mi mara se respeta, que la mara se respeta.
11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et sa chronique Son Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle de Donald Trump et de toute l'idéologie qui l'entoure depuis le début de cette semaine. Donald Trump qui n'était pas le candidat de l'intelligentsia conservatrice américaine, elle lui aurait préféré Ted Cruz, mais comme vous l'avez signalé, de nouvelles publications se sont créées récemment pour le soutenir, justement, American Affairs Journal notamment.
Oui, contrairement à Reagan, ce faux naïf, ou à George W. Bush, Trump n'a pas de colonne vertébrale intellectuelle, aucun ancrage idéologique. Avant de s'emparer de la nomination aux primaires républicaines, il a longtemps passé pour un démocrate de New York. Mais il y a des intellectuels conservateurs qui ont décidé d'équiper idéologiquement le nouveau président. L'un d'entre eux, qui a longtemps signé d'un pseudonyme, tant le soutien à un tel personnage pouvait paraître pour compromettant, Publius Decius Meus, s'est récemment dévoilé. Il s'agit de Michael Anton, un ancien conseiller de Rudy Giuliani et de George W. Bush précisément. Il collabore régulièrement au site American Greatness, qui semble lui aussi engagé dans cette tentative de donner une idéologie à la pratique politique de Trump. Comme beaucoup des rares intellectuels Trumpo-compatibles, il a rejoint la nouvelle administration. Il est aujourd'hui membre du Conseil national de sécurité. Les intellectuels pro-Trump sont si peu nombreux qu'il ne leur est pas difficile d'obtenir des places. Non seulement en raison du spoil system américain qui permet au président de répartir plus de 4000 postes d'apparentés aux fonctionnaires assez fidèles, mais aussi, et vous l'avez évoqué dans une émission, parce que Trump est persuadé qu'existe une sorte d'État profond aux États-Unis composé de fonctionnaires libéraux qui sabotent systématiquement ses décisions. D'où la nomination de proches chargés de faire la chasse aux fuites. Alors, aujourd'hui, décrit TV Troy sur le site Politico, le camp conservateur a éclaté en trois groupes. Les Never Trumpers estiment que le président élu est trop éloigné des positions conservatrices traditionnelles pour qu'il soit moralement admissible de jouer les compagnons de route d'un tel personnage. Ils sont en désaccord sur l'immigration, sur les investissements dans les infrastructures et sur la renégociation des traités de libre-échange. Et surtout, ils sont traditionnellement hostiles à la Russie, alors que Trump passe pour poutinophile. Il mise donc sur l'échec. Par exemple, lors des élections de mi-terme en 2018, la marginalisation du président, voire même son impeachment qui donnerait le pouvoir à Mike Pence, le vice-président, un homme beaucoup plus à leur goût. On citera notamment des gens comme Elliot Cohen de la revue The Atlantic et John Podoretz de Commentary comme représentants de cette tendance Never Trumper. Les pro-Trump sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui que l'année dernière. Ceux qui avaient misé sur Trump dès le départ peuvent se vanter d'avoir choisi le cheval gagnant. À défaut d'avoir rallié des intellectuels de premier plan, Trump avait bénéficié dès le départ du soutien de plusieurs animateurs de radio très populaires à travers le pays. Je citerai en particulier Mike Gallagher, Laura Ingraham et Dennis Prager. Même s'il conserve des réserves envers certains aspects du programme présidentiel, il mise sur une forme d'entrisme pour orienter sa politique dans un sens, disons, plus conforme à l'agenda conservateur traditionnel qu'ils sont prêts, quelque part, à réviser. Puis vous avez un troisième groupe qui approuve les aspects traditionnellement conservateurs de la politique menée depuis le 20 janvier, comme par exemple, bien sûr, la nomination d'un juge ultra-conservateur, Neil Gorsuch, à la Cour suprême, tout en continuant à juger inacceptables les positions de Trump sur des sujets aussi décisifs aux yeux du conservateur que l'immigration ou le libre-échange. Il est possible que nous assistions en direct à l'émergence d'une nouvelle ligne de fracture dans le monde de la philosophie politique américaine, écrit TV Troy. Elle pourrait bien modeler la politique américaine pour les décennies à venir.
Et si on franchit les frontières états-uniennes, du côté des conservateurs britanniques par exemple, que dit-on du tournant pris par le Parti républicain américain, Brice ?
Je vous citerai le formidable éditorialiste britannique Nick Cohen, qui n'est ni de droite ni de gauche, il a longtemps appartenu à un groupuscule trotskiste, qui signe dans le dernier numéro de la revue conservatrice britannique Standpoint un article ravageur contre ce que représente Donald Trump à ses yeux. Et je vais vous en citer de larges extraits, ce qui vaut toujours mieux que de tenter de résumer un personnage aussi remarquable. « Une époque se termine toujours lorsque les personnes qui l'ont dominé cessent de croire aux histoires qu'ils racontaient à propos d'eux-mêmes », commence ainsi Nick Cohen en prenant pour exemple la fin de l'Union soviétique. Lorsque ses dirigeants eux-mêmes ont cessé de croire au communisme, eh bien leur pouvoir s'est effondré. À l'âge de Trump, poursuit-il, les histoires que les conservateurs racontent sur eux-mêmes sonnent aussi faux que les histoires que racontaient les dirigeants de l'Union soviétique à la fin du communisme. Modération, scepticisme, pessimisme, bref, les qualités autrefois à la politique, associées autrefois à la politique conservatrice ne peuvent plus en aucun cas caractériser ce qu'est devenu la droite en Occident depuis l'élection de Trump. Ce personnage n'a aucun respect pour les contrôles et les équilibres qui caractérisent l'ordre démocratique libéral. Il ment de manière effrontée et instinctive. Le fanatisme a remplacé le scepticisme et l'extrémisme la modération. Mais voyez comme les républicains s'en remettent à lui, leur croyance au libre-échange ou à la sécurité collective à travers le temps, où cette forme de conservatisme qui n'épouse pas l'intolérance raciale et religieuse, tout cela a tourné au slogan creux, digne de l'époque Brejnev de l'Union soviétique. Ils ont cessé d'y croire. Et voyez comme la première ministre conservatrice de la Grande-Bretagne s'est précipitée pour s'abaisser elle-même et abaisser son pays devant lui.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On peut évidemment retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.